niveau rotatif jambe gauche, clé du bras droit et j'immobilise, compris ? Bon, mise en situation. Vous ?
Moi ?
Oui. Alors, scénario. Un cambrioleur s'introduit chez vous en pleine nuit. Vous devez le neutraliser. Je fais le cambrioleur, allez-y.
Alors, pivot rotatif du bras droit.
Pour rester serein, confiez plutôt votre maison au professionnel Verisur. Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisur.fr.
Vous quittez le cours ?
Ah oui.
Vous êtes sûr ?
Ah oui, oui, Verisur.
Verisur par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
L'année prochaine, en 2016, marquera le 50e anniversaire du Comité français pour la sauvegarde de Venise. Franck Ferrand a choisi de fêter cet anniversaire avec un peu d'avance. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous aurons tout à l'heure au téléphone depuis Venise le président du comité. Et dans ce studio, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un Vénitien d'adoption, si je puis dire, Frédéric Vitou, pour qui la Sérénissime n'a plus aucun secret.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Michael sur l'origine des verreries de Murano.
Autant dire l'origine des verreries de Venise. Pour le moment, je vous propose donc de revivre, à titre de préambule, les terribles inondations de 1966.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On trouve bien des vérités dans les lettres persanes, et voilà ce que Montesquieu, voici ce qu'il fait écrire à l'un de ses personnages. On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise. On sera toujours étonné de voir une ville sortir de dessous l'eau et de trouver un peuple innombrable dans un endroit où il ne devrait y avoir que des poissons. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'effarant dans la situation même de Venise, dans son existence qui tient du miracle. À la contempler, un certain nombre de questions surgissent. D'abord, on se demande comment cette véritable perle a pu surgir au beau milieu de l'écrin passablement saumâtre qu'est la lagune de Venise. On peut se demander aussi comment et pourquoi autant de chefs-d'œuvre s'y trouvent concentrés. Comment une ville si jalousée, si disputée, a pu parvenir à résister aux assauts de l'histoire. Il faut bien être conscient qu'au-delà des moments de gloire de Venise qui ont été nombreux, la Sérénissime n'a pas été épargnée par le temps. Elle a subi d'innombrables défaites et puis ce long, irrésistible déclin des occupations diverses qui, tour à tour, l'ont frappée. C'est de sa plus grande alliée, a priori, c'est de la mer, celle-là même qui avait favorisé la puissance vénitienne, c'est de la mer que le plus grand danger devait venir, révélant à la communauté internationale la fragilité de cette ville hors du commun. On était en 1966, au tournant de l'automne, on est au tout début du mois de novembre 66, et comme d'habitude, après l'agitation estivale, Venise est en train de reprendre son rythme de basse saison. Malheureusement, le rythme de basse saison a tendance à disparaître de nos jours, et les touristes sont là par vagues quasiment ininterrompues. À cette époque, il y a de fortes interruptions, bien entendu, faut imaginer cette atmosphère un petit peu mélancolique, à l'ombre des églises et des somptueux palais, alors que le temps est déjà maussade. Et voilà que le 4 novembre, tandis que dans la nuit des pluies diluviennes se sont abattues sur une grande partie de l'Italie, voilà que les Vénitiens observent cette fameuse montée des eaux à laquelle, a priori, ils sont habitués. On appelle ça l'acqua alta, l'eau haute à Venise. On connaît ça pas tous les ans, mais presque. Sauf que cette fois, la menace a l'air particulièrement grave. L'eau salée ou saumâtre ne se contente pas de tapisser la place Saint-Marc, ni de lécher quelques marches supplémentaires des pieds de la basilique de la Salute. Le niveau monte. Il monte inexorablement. Et voilà les Vénitiens, comme isolés du monde, désarmés devant ce qui a l'air d'être une sorte de naufrage progressif. Imaginez l'eau qui monte. Alors bien entendu, quand on est dans une ville qui en soi est aquatique, au milieu de tous ces canaux, voir ainsi l'eau monter, ça donne un sentiment terrible. L'eau est à un mètre et demi, bientôt à 1,80 m. Au plus fort du phénomène, la barre des 1,94 m est atteinte. Évidemment, pour ceux des habitants qui n'ont pas été évacués, ce sont des heures très difficiles. On peut dire même que les minutes semblent des heures. Voici ce qu'écrit Le Figaro à propos de cette effroyable situation. Le niveau des canaux s'est tellement élevé que les rez-de-chaussée sont inondés, les égouts engorgés se déversent dans les canaux et la distribution d'eau potable a cessé de fonctionner. La population vit de façon précaire dans les étages supérieurs des maisons et dans une édition du lendemain, le journal précise « Les rats chassés des égouts ont envahi les étages supérieurs et même attaqué des enfants. » Il va falloir de la patience aux Vénitiens pris au piège. L'eau va refluer, bien entendu, à partir du 5 novembre, mais de manière lente. Même si d'autres villes italiennes ont été touchées, et je pense évidemment à Florence, car on a beaucoup montré à l'époque les images de cette ville de Florence dévastée littéralement par des torrents de boue, la situation de Venise est particulière à plus d'un titre. Non seulement les pluies qui ont ruisselé depuis le continent y ont joué, comme ailleurs, leur rôle funeste, mais la montée exceptionnelle des eaux a été liée à une conjonction de facteurs qui, eux, ne sont pas accidentels, qui sont appelés à constamment se reproduire. On a un système de marée dans l'Adriatique qui fait que Venise se trouve être objectivement très très vulnérable. Il y a par ailleurs, à ce moment-là, un vent de sirocco, un vent de sud, qui a poussé la lame marine contre la côte vénitienne et qui a empêché l'eau accumulée de s'évacuer normalement. Et puis, n'oublions pas, l'enfoncement progressif de Venise. Alors, peut-être pas dans les proportions qu'on a dites, mais dans des proportions qui, en tout cas, la rendent incontestablement vulnérable. Le bilan est lourd à l'époque à Venise et dans l'arrière-pays. Il y a en tout 71 morts, 120 personnes blessées, plus de 300 km² de terres cultivées inondées et 90% du bétail alentour qui a été noyé. Ces images de l'Italie meurtrie font bien sûr le tour du monde. Ce sera une véritable prise de conscience. Vous savez, la cité des doges devient une préoccupation pour le monde entier. Ça, c'est très intéressant parce que l'on considère que cette catastrophe naturelle n'est pas seulement l'affaire des Italiens, mais que dans la mesure où elle touche un patrimoine qui appartient à l'humanité, c'est une notion qui va naître à l'occasion de ces fameuses inondations de 1966, eh bien, il est temps pour le monde entier de s'en préoccuper. Voilà des événements qui résonnent comme une sonnerie d'alarme. Si rien n'est fait, se dit-on, peut-être que la plus belle ville du monde risque de sombrer.
Concerto pour deux trompettes de Vivaldi à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes à Venise avec Franck Ferrand qui vous fait revivre les inondations de 1966. Ça tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et jusqu'à 15h, nous sommes au bord de la mer Adriatique, à Venise. Avec vous, Franck Ferrand, vous nous faites revivre les inondations de 1966 qui ont marqué le monde.
Effroyables inondations, en effet, qui ont non seulement marqué le monde, mais qui ont désolé tout le nord de l'Italie. Vous imaginez la quantité de messages qui affluent du monde entier, à commencer par le message du pape Paul VI, qui va faire un don de 50 millions de lires, auxquels s'ajoutent les messages et les dons, d'ailleurs, d'un certain nombre de personnalités à travers le monde. Le général de Gaulle, par exemple, écrit à son homologue italien qu'il est, je le cite, « profondément ému par la nouvelle des inondations qui ont ravagé Florence, ainsi que plusieurs autres villes italiennes ». C'est intéressant, cette insistance sur Florence. D'abord, ça tient à la gravité des dévastations dans la cité des Médicis, car là, vraiment, c'est vrai que la ville et ses trésors ont été frappés frappé de plein fouet, mais il est certain que Venise va passer au deuxième plan, peut-être parce que justement l'image aquatique de Venise a comme d'une certaine manière habitué les gens aux photographies et aux quelques films qui se répandent à l'époque. La situation de la Sérénissime, comme on l'appelle, nous verrons d'ailleurs tout à l'heure pourquoi on l'appelle la Sérénissime République, sa situation inquiète. Dans les deux villes, au bilan humain s'ajoutent, vous l'imaginez, des pertes patrimoniales considérables. De nombreux trésors artistiques, des bâtiments, des peintures, des sculptures ont été abîmés, ont été détruits. Et ça, c'est du ressort de l'UNESCO. L'UNESCO va lancer une grande campagne internationale en faveur des deux villes et de leurs régions, l'une et l'autre sinistrées. Le directeur général à l'époque, c'est René Maheu. Et voilà l'appel qu'il formule le 2 décembre 1966. 885 œuvres d'art de première importance, 18 églises et une dizaine de milliers d'objets ont souffert. Plus de 700 000 volumes d'archives ont été détériorés, environ 50 millions de pièces, dont 10 000 d'une inestimable valeur historique et scientifique. Florence, Venise, ces noms seuls suffisent pour dire que la douleur de la nation italienne fut notre douleur. La conférence générale de l'UNESCO a décidé à l'unanimité de faire instamment appel à la solidarité des États membres pour qu'ils concourent aux efforts de la population et des pouvoirs publics italiens pour la préservation et la restauration des biens culturels endommagés ou menacés. Évidemment, en lien ou disons parallèlement à cet appel, toute une série d'institutions, de fondations, d'associations, il ne faut pas oublier non plus les particuliers, vont se mobiliser partout à travers le monde. Et l'on voit naître des initiatives pour récolter de l'argent, pour lancer des programmes de travaux ciblés. C'est André Chastel, le grand conservateur, grand critique d'art, qui en 1969, dans Le Monde, pourra écrire: on quête pour Venise dans nos villes et l'on offre une carte postale de Noël pour réunir les crédits urgents. Les choses ont été lancées au tout début de l'année 1967, mais on est encore en plein dans cette campagne en 1969. Les sommes qu'on cherche alors à rassembler sont d'autant plus importantes qu'on mesure de mieux en mieux l'étendue des besoins qu'a Venise. Finalement, l'inondation de 1966 a surtout été, disons-le, une sorte de révélateur. Voilà ce qu'écrit Shirley Guiton. Après l'inondation, sa grandeur passée pesa plus lourdement sur la ville et une inquiétude latente se fit jour quant à l'avenir de Venise. La cité était vieille et délabrée. Ses monuments et ses œuvres d'art avaient besoin d'être restaurés. La pollution industrielle de l'air et de l'eau par les installations indispensables à la santé économique de la ville causait d'effroyables ravages aux édifices et aux statues. Finalement, s'il n'y avait pas eu les inondations de 1966, je pense que Venise aurait été au moins autant vulnérable et aurait autant mérité les soins de la planète entière. Simplement, ces inondations ont permis une prise de conscience. Alors, on va d'abord procéder aux restaurations urgentes, ça c'est le rôle des autorités italiennes, mais bientôt, les organisations étrangères qui se sont créées pour la circonstance vont fournir un important travail. Et d'abord, elles vont apporter leur diagnostic en cherchant à comprendre pourquoi Venise est menacée, par le risque d'inondation, vous l'aurez compris, mais aussi du fait de son état de dégradation générale, tout un champ d'explications scientifiques, environnementales, sociologiques aussi et même économiques va être mis en avant. Tassement du sous-sol, montée générale du niveau des eaux, vous l'aurez compris, manque d'entretien des bâtiments, ensablement partiel, pollution industrielle de la lagune, désertion du centre historique par la population active qui l'a littéralement abandonné aux touristes, ce sont autant de problèmes qui sont mis en évidence à cette occasion. C'est un équilibre subtil entre la cité et son environnement qui va devoir être reconstitué. C'est donc un défi colossal, il faut bien le dire, qui va exiger en tout cas des moyens considérables, avec bien entendu la nécessité de concilier des intérêts pour le moins divergents, ceux de la population vénitienne, ceux des industriels de la lagune et plus largement de la région, ceux des acteurs de l'activité touristique, etc. Une haute personnalité de l'époque, l'ambassadeur Gaston Palevski, qui se trouvait être alors président du Conseil constitutionnel en France, Monsieur Palevski va créer un comité de liaison, puis assez vite le comité français pour la sauvegarde de Venise qui voit le jour en 1969. Lui succéderont un autre ambassadeur, Gérard Gossin, et puis Jérôme Zisnis, qui est en ligne avec nous depuis Venise et que nous allons entendre dans un instant. Il est là, il nous attend.
Nous sommes à Venise jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Posez vos questions à Franck Ferrand et ses invités sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'année prochaine marquera le 50e anniversaire du Comité français pour la sauvegarde de Venise. Nous parlons donc de la Sérénissime jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités. Vous recevez par téléphone Jérôme Zisnis, président du Comité français pour la sauvegarde de Venise.
Oui, alors l'inondation datera de 50 ans l'année prochaine. Le comité lui-même, il a été fondé en 1969. Bonjour Jérôme Zisnis.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup de nous répondre depuis Venise. Ça, c'est un privilège.
Ah, j'en suis très heureux.
Oui.
Le comité, en fait, a été créé, on peut dire, en 67, oui. Sous le nom de comité de liaison.
C'est ça.
Pour Venise et Florence, parce qu'il y avait des inondations aussi à Florence le même jour. Mais en fait, il a pris sa forme juridique définitive en 69, et son nom, mais enfin, il fonctionnait déjà.
Est-ce qu'on peut dire, Jérôme Zisnis, que vous présidez, vous, ce comité depuis 16 ans maintenant, est-ce qu'on peut dire que Gaston Palevski et les Français ont été en première ligne dans le secours qu'on a pu apporter au patrimoine italien à l'époque?
Ah, tout à fait, tout à fait. D'abord, c'était un Français, René Maheu, qui était directeur de l'UNESCO, qui a lancé un appel en disant que c'était le patrimoine commun de l'humanité et que ça nous concernait tous.
Oui.
Ce qui est aujourd'hui paraît une banalité, mais n'était pas à l'époque.
Oui, c'était une notion nouvelle.
C'était une nouvelle notion. Et quant à Palevski, effectivement, il a joué un rôle important puisque c'était le cinquième personnage de l'État. Il était très proche du général de Gaulle et donc il pouvait, à l'époque, en passant un coup de téléphone peut-être, lever certains fonds plus facilement que d'autres.
Et on a vu assez vite les Anglais, les Américains voler eux aussi au secours de Venise.
Voilà, un autre ambassadeur qui était l'ambassadeur en Grande-Bretagne à Rome au moment où Palevski était lui-même pour la France, a créé le Venetian Peril qui était le comité anglais, puis un colonel américain a créé le comité américain, etc., qui est devenu Save Venice, et qui sont aujourd'hui encore les trois comités probablement les plus actifs. Mais il y a aussi le comité italien, le comité hollandais, enfin il y a un assez grand nombre de comités.
C'était autant d'institutions créées ad hoc pour voler au secours de villes malmenées par les éléments. Comment expliquer que tant d'années après, presque bientôt 50 ans plus tard, ces comités existent toujours? Vous continuez à prodiguer vos bons soins à la cité vénitienne?
Eh bien parce que, vous savez, ça ne finira jamais, ou du moins espérons-le. C'est-à-dire que Venise, c'est un sujet qui ne peut pas avoir de solution de continuité. Vous pensez par exemple au château de Versailles, pour lequel mon père a œuvré du temps de Van der Kemp.
Oui, bien sûr.
Eh bien, il me disait quand on a terminé la toiture, on recommence de l'autre côté, parce qu'il y a je ne sais pas combien d'hectares de toiture.
Oui, ça n'est jamais fini, bien entendu.
Donc, ça n'est jamais fini. Et Venise, c'est la même chose.
Quels sont les trésors que le comité français a permis de sauver à Venise?
Eh bien alors, l'église de la Salute, la grande basilique de la Salute, ça a été l'œuvre de Palevski. Et un jour, je me trouvais dans le Vaporetto, je ne m'occupais pas encore activement du comité, mais je voyais une brave dame qui était toute seule. Mais elle parlait à haute voix, elle disait « Ah, ça c'est la Salute, je crois que ça appartient à la France. » Et je me suis dit « Eh bien, Palevski a réussi son coup. Il faut savoir communiquer.
» Oui,
donc, quand l'ambassadeur Gérard Gossin m'a demandé de prendre sa suite il y a 16 ans, j'ai pensé que nous devions renouer avec un très grand projet et visible. Et donc, nous sommes attaqués, si j'ose dire, au Palais Royal de Venise, c'est-à-dire un sujet que tout le monde ignorait.
Et oui,
il s'agit quand même d'un grand palais place Saint-Marc.
Une merveille que vous avez largement contribué à faire renaître de ses cendres. Il y a bien sûr la restauration des monuments et l'emploi de fonds évident pour tous ces travaux. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au-delà, vous remplissez une mission qui ressemble à celle des amis des musées un peu? C'est-à-dire que vous êtes des observateurs privilégiés de la situation à Venise?
Oui, certainement. Mais enfin, notre mission quand même reste principalement celle de restaurer des monuments, d'identifier...
Grâce à des mécènes, grandes, il faut le dire.
Hein. ...des grandes tâches, et grâce à des mécènes. Si vous me permettez, je voudrais vous dire un peu quels sont les types de mécènes.
Oui, le mérite, oui.
Parce qu'il s'agit d'une part de fondations, comme la Fondation Florence Gould, le World Monuments Fund ou la Fondation Napoléon.
Oui.
Il s'agit d'entreprises comme LVMH, Van Cleef & Arpels, Chanel, Roubelli, la compagnie Plastique Omnium, ou du temps de Jean-Louis Dumas Hermès. Il s'agit de particuliers comme Alain et Chantal Mérieux, Henri et Patrice Hermant, Éric et Caroline Frémont, Nina Stevens, François-Joël Lelousse, l'oligarque russe Léonide Nicholson. Donc nous sommes très éclectiques dans nos sources de financement. Vous voyez qu'elles sont françaises, mais aussi
pas seulement du reste,
suisses, italiennes, américaines, russes.
Vous avez d'autres projets en 30 secondes, Jérôme Zisnis, pour Venise?
Alors, nous restaurons également la basilique, enfin, une partie de la basilique de Saint-Marc. Le Palais Royal reste notre grand projet. C'est un projet quand même de 5 millions d'euros qui est réalisé aux deux tiers. Nous sommes en train de doubler la superficie du musée Corrère. Mais d'autre part, effectivement, notre rôle est également d'être ce que le fondateur du comité anglais appelait les watching dogs. C'est-à-dire, nous devons un peu regarder ce qui se passe et éventuellement tirer la sonnette d'alarme si nous estimons que des dangers menacent Venise.
C'est ce que nous ferons à l'occasion.
Le principal danger actuellement, c'est la Disneylandisation.
Bien sûr, évidemment. Nous en parlerons malheureusement aussi dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup Jérôme Zisnis. Je rappelle que vous êtes le président du comité français pour la sauvegarde de Venise.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Extrait de l'opéra Tancredi de Rossini avec la voix d'Elina Garanza à l'instant sur Europe 1. Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous parlez de la cité des doges, la reine de l'Adriatique, la cité des eaux ou encore la cité des masques. Bref,
n'est-ce pas ?
On l'a compris, vous nous parlez de la Sérénissime. Nous sommes à Venise avec vous et avec votre invité, Frédéric Vitoux de l'Académie française, romancier et essayiste.
Alors on peut dire, bonjour Frédéric Vitoux.
Bonjour.
On peut dire qu'entre Rossini et Venise, il ne manque plus que les chats et tous vos amours seront réunis dans cette émission.
Voilà, mais comme Rossini a écrit un air sur les chats,
n'est-ce
nous
pas,
y sommes. Hein. Non, c'est intéressant cet air-là parce que c'est vraiment le premier tube absolu européen, j'ose pas dire mondial, de Rossini en l'espace de 3-4 jours. Cet opéra écrit en 8 minutes.
Il est tout jeune à l'époque. Hein.
Il a 20 ans. Il est, pour la première fois, c'est une grosse production dans un grand théâtre, c'est la Fenice. Et Tancredi, il joue gros, le très jeune Rossini. Et son actrice qui joue le rôle de Tancredi, parce que Tancredi est joué par une femme. D'ailleurs, c'est une femme qu'on a entendue et elle joue le rôle du chevalier Tancredi. Elle s'appelle, un nom incroyable, s'appelle Adélaïde Malanotte. Malanotte, mauvaise nuit, je ne sais pas. alors qu'elle devait probablement enchanter les nuits de beaucoup de ses admirateurs. Mais c'est un autre problème. Et elle n'est pas contente du premier air. Et elle dit à Rossini, un jour où
ils sont en train de déjeuner,
ça ne me plaît pas cet air d'ouverture, vous ne pourriez pas m'en écrire un autre? Et Rossini commande un risotto et se met sur un coin de table à écrire à toute vitesse cet air. Quand on lui amène le risotto, l'air est fini et on a appelé cet air l'aria dei risi. Et le soir même de la première...
L'air du riz.
Et le soir même, tous les gondoliers le chantaient. Quelques jours après, toute l'Europe chantait cet air.
C'est incroyable. Ce talent précoce et qui ne quittera jamais. Ouais. C'est ça. Alors, la virtuosité, c'est un peu celle de Venise et des Vénitiens. Nous avons parlé pour commencer cette émission d'un épisode dramatique, celui des inondations de 1966, qui ont jeté vers Venise à peu près toutes les bonnes volontés de la planète. Mais il faut quand même dire que Venise continue et, comme avait commencé depuis bien longtemps, à éblouir le monde entier. C'est une ville qui n'est pas comme les autres. D'abord, et vous qui êtes un insulaire de Paris, si je puis dire, puisque vous habitez dans l'île Saint-Louis, on peut dire que Venise est une île ou même une agglomération d'îles.
C'est une agglomération d'îles. Je crois que c'était Goethe qui disait c'est la ville nénuphar. C'est une très belle image, la ville nénuphar.
Très jolie.
Oui, en effet, c'est une ville unique au monde. Unique au monde parce qu'elle est construite peu à peu sur une lagune qui fait près de 80 km de long, comme un croissant, et 5-6 km de large, avec une profondeur d'eau moyenne dans la lagune très faible, moins d'un mètre la profondeur d'eau moyenne. Ce qui explique d'ailleurs quand il y a des grosses inondations ou un afflux d'eau, d'un seul coup les inondations dramatiques que vous avez très bien évoquées tout à l'heure. Donc c'est un territoire extrêmement privilégié pour s'y réfugier à l'abri, par certains côtés inhabitable. Mais c'est précisément parce qu'il est inhabitable que les réfugiés échappant aux barbares dans les premiers siècles après Jésus-Christ se sont réfugiés là et peu à peu ont colonisé des terres lagunes, vraiment, oui c'est ça, des terres de boueuses et ont fait des petites îles qui se sont regroupées peu à peu. D'abord Torcello, puis ensuite le cœur de ce qui est aujourd'hui Venise. Et c'était un territoire si exceptionnel que aussi bien de la mer on ne pouvait pas y arriver parce que vous savez, quand vous arrivez à Venise, vous avez des pieux comme ça qui délimitent les voies navigables. Si vous retirez les pieux...
C'est ce qu'on appelle les palais.
Il y a différents noms pour les appeler. Mais ces pieux, si vous voulez, si on les retire, les Vénitiens, aucun navire peut pénétrer parce qu'il va s'embourber immédiatement. Ce qui explique qu'aucune flotte ennemie n'a jamais réussi à pénétrer dans la lagune.
Ça, c'est peut-être
jamais
un des secrets de cette puissance maritime de Venise.
Bien sûr. Et
bien entendu, parce que c'était, on l'a oublié aujourd'hui, Venise est devenue une très charmante et même sublime ville de province, mais à l'époque, c'était une capitale, la capitale d'un empire commercial considérable qui s'étendait sur toute une partie du monde, sur toute la Méditerranée et même bien au-delà, en vérité, quasiment jusqu'à la Chine, hein, d'une certaine manière,
oui,
par les routes.
C'est pas par hasard, c'est chinois. Hein.
Et donc,
les Chinois et Vénitiens.
Cette puissance et cette puissance économique expliquent la splendeur des lieux et le luxe des palais d'abord, bien entendu.
Vous avez tout à fait raison. Il y a eu plusieurs époques dans Venise, mais Venise est une république qui a duré à peu près 10-12 siècles, ce qui est absolument incroyable. 10-12 siècles sans un changement de constitution, sans un coup d'État, sans rien du tout. Et la Venise du 10e, 12e, 13e, 14e siècle, c'est peut-être la plus grande capitale économique du monde, de l'Europe. En effet, vous l'avez rappelé, sa puissance, c'est pas une puissance coloniale parce que elle a des territoires, elle a des comptoirs partout le long de la Méditerranée. Elle est très puissante. La flotte de Venise est considérable. C'est la flotte de Venise qui emmène les croisés souvent pour reconquérir la Terre Sainte. C'est la flotte vénitienne qui bat les Ottomans à Lépante. C'est la flotte vénitienne.
1571.
Voilà. Et donc il y a eu cette énorme puissance commerciale de Venise. D'ailleurs, Venise est une république aristocratique, mais ce n'est pas une aristocratie tellement de militaires, c'est une aristocratie de marchands. Et c'est pour ça dire que la richesse de Venise, c'est la richesse des palais vénitiens qui sont au fond des sièges sociaux des marchands vénitiens.
Vous faites bien de rappeler qu'il s'agit d'une république aristocratique. Ça nous ramène à l'émission de la semaine dernière sur les républiques. En France, on a tendance à confondre république et démocratie. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans une démocratie. On était dans une république, c'est-à-dire dans le pouvoir partagé entre quelques très grandes familles.
Voilà, il fallait être inscrit dans le livre d'or de la République de Venise. Il y avait environ 500-600 familles. Et c'est entre ces 500 ou 600 familles que se partageaient et qu'on votait pour les postes de doge, du Sénat et les différentes fonctions.
La configuration même de ces îles qui se sont en quelque sorte agrégées les unes aux autres fait qu'il y a d'abord ce grand canal qui traverse Venise et puis tout un réseau de canaux, bien entendu, plus ou moins navigables, plus ou moins larges, qui permettent d'entrer dans des quartiers. Et on passe à droite et à gauche devant des petites placettes qu'on appelle les campi là-bas, à Venise.
Oui, il y a tout un dialecte vénitien, ce qui n'est peut-être pas un dialecte, mais une langue, vénitienne. Oui. En effet, et souvent on voit aussi marqué Rio Terra, par exemple. Rio Terra, ça veut dire que c'est maintenant une ruelle, mais qui était autrefois un canal. Donc Venise est en effet, et c'est une ville étonnante parce qu'il y a d'un côté le circuit des canaux qui est le circuit pour les marchandises et on marche à pied pour les piétons. Et donc les deux grilles de communication des marchandises d'un côté, des piétons de l'autre se superposent sans trop choquer. Le Corbusier disait que c'était la ville la plus moderne du monde parce que ces deux réseaux-là ne se gênaient pas les uns les autres.
Alors pourquoi ces mosaïques de marbre? Pourquoi ces extraordinaires sols vénitiens? Bien entendu, on va parler de tout cela dans un instant. On va parler du style byzantin, de tous les styles vénitiens, de tous les grands peintres. On est vraiment dans la capitale des arts cet après-midi sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Elle abrite la place Saint-Marc, le palais des Doges, le pont des Soupirs et bien sûr le mythique carnaval. Nous sommes à Venise jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand. Vous recevez Frédéric Vitoux de l'Académie française, romancier et essayiste, auteur des Désengagés paru chez Fayard et de l'Art de vivre à Venise paru chez Flammarion.
Alors, les Désengagés, ça vient de sortir. Hein. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain séduisant qui s'éprend ou qui est en tout cas choisi, si je puis dire, par une directrice littéraire d'un âge plus mûr, Frédéric Vitoux.
Et d'une séduction non moins certaine.
N'est-ce pas?
Et il a le malheur de sortir son livre en mai 68, ce n'était pas la meilleure période pour sortir un roman.
C'est ce qui s'appelle la malchance, sortir au moment d'un grand événement comme ça qui vous balaie et qui balaie tout sur son passage, un peu comme les boues qui avaient ravagé Florence et Venise. Quant à l'art de vivre à Venise, c'était il y a 25 ans, c'est un livre qui a fait date parce qu'il a créé un genre en France, faut le dire.
Hein. Oui, il a créé un genre et le succès livre d'art de vivre. Incroyable. Mm-hmm. Dans le monde entier, c'est incroyable.
Il y a, faut dire, une façon de vivre à Venise qui n'est pas la même qu'ailleurs.
Voilà, c'est pour ça, parce que c'était, au fond, c'était pas montré comme des centaines de livres l'ont montré, le Palais des Doges, la Salute, le Grand Canal, etc. Mais montrer l'intérieur des vies des Vénitiens, de rentrer chez les Vénitiens dans ce rythme de vie qui n'est sans commune mesure avec rien d'autre. Vraiment, c'est...
Alors, il y a un certain nombre de spécificités à Venise, nous l'avons dit. J'ai cité les noms des sestieres, c'est-à-dire les quartiers. On ne pourra pas tous les évoquer, ces quartiers, mais si on devait en retenir un ou deux, lesquels nous indiqueriez-vous?
C'est difficile. Disons, San Marco, c'est le quartier le plus touristique, c'est le quartier central. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon qu'il y a le Palais des Doges, il y a la Place Saint-Marc.
Oui, ça, évidemment.
La Place Saint-Marc, le plus beau salon d'Europe, comme disait Napoléon. Dorso Duro, c'est... devant le canal de la Giudecca, c'est le soleil, c'est l'art de vivre, la douceur, l'hédonisme, etc. Castello, qui est celui plutôt laborieux, qui est celui où on fabrique les gondoles.
Plus authentique, d'une certaine manière.
Et Canareggio, que j'aime bien, c'est celui qui est au nord. Je dirais presque, c'est presque la dernière réserve indienne des Vénitiens eux-mêmes.
C'est là qu'ils vivent, les Vénitiens.
C'est là qu'ils vivent, parce qu'au fond, ils ont été un peu dépossédés de leur centre-ville par le tourisme. Et là, par exemple, il y a encore des chats. Alors que les chats ont un peu disparu de Venise, mais on trouve encore des chats. Et puis il y a quelques églises sublimes comme la Madonna dell'Orto avec les Tintoret, etc., qui sont des endroits, et le ghetto de Venise qui
un
est
peu,
aussi
un
là.
Un peu partout dans ces sestières et dans ces quartiers, mais plus principalement dans celui de San Polo, vous avez les fameuses scuole. Qu'est-ce que c'est que ces scuole?
Les scuole, c'était au fond...
Des écoles,
c'était
si on peut dire.
Écoles où des fidèles des églises, des congrégations, construisaient en marge de l'église, de la cathédrale, que ça soit San Rocco, que ça soit etc., d'autres, les Carmini, un lieu de rencontre, un lieu de réflexion et aussi un lieu magique décoré de manière sublime. Hein, la Scuola dei Carmini, hein, sont les plus beaux tiepolo qui soient. La Scuola San Rocco avec les Tintorets incroyables.
On vous donne, pour voir ces fameux plafonds de tiepolo, on vous donne un petit miroir, hein, que vous n'ayez pas besoin de vous casser la tête en fait.
Mais je vous conseillerais, si vous aimez tiepolo, d'aller aussi au Palazzo Labbia, qui est le centre de la RAI à Venise.
Ancienne demeure de Besteghi.
Voilà, où il y a eu un fameux bal très célèbre au début des années 60. Et où là, il y a la fresque de Tiepolo qui représente Cléopâtre avec, etc., avec César et tout le monde. Et c'est extraordinaire.
Alors, Tiepolo, bien entendu. Canaletto, c'est peut-être le plus célèbre dans le monde, celui qui a fait toutes les boîtes de chocolat, si je puis dire, à toutes ces grandes vues de Venise.
Voilà, c'était les cartes postales que s'achetaient les riches visiteurs.
Pietro Longhi.
C'est sublime. Ça.
Ah là oui, ça je suis d'accord.
Pietro Longhi, lui, c'est à l'époque de Goldoni, si vous voulez, donc au XVIIIe siècle, le chroniqueur le plus tendre, le plus poétique et le plus malicieux de la vie quotidienne à Venise.
Il est très précis.
Voilà, le chroniqueur de la vie à Venise, des carnavals, des distractions dans les rues, des masques. Tout ce qui est le charme et le quotidien de la Venise du 18e, qui est une Venise par certains côtés décadente, puisqu'elle a perdu sa puissance politique, sa puissance économique, mais qui est la capitale de l'art de vivre en Europe. De la douceur, de la sensualité, de la sexualité aussi, puisque à ce moment-là, Venise devient pratiquement le tourisme sexuel. C'est Venise qui l'a inventé. Les prostituées de Venise sont célébrissimes.
Les célèbres courtisanes qui font affluer.
Les catalogues circulent dans l'Europe entière avec leur spécialité.
Il y a d'ailleurs un très beau film qui avait été fait sur ce sujet, qui porte ce titre. Les grands tableaux sont à voir à l'Accademia, bien entendu, au Musée de Venise, mais ils sont d'une façon plus générale répandus à travers la ville. Alors, on a évoqué, bien sûr, Tiepolo, Longhi ou Canaletto. Il ne faut pas oublier les maîtres que sont. Alors, on disait autrefois le Tintoret, le Véronèse et le Titien. Aujourd'hui, on a enlevé l'article, mais enfin bon.
Ah, ça, c'est l'âge d'or de la peinture vénitienne. Et puis Carpaccio, on aurait pu citer aussi, bien entendu,
merveilleux,
qui est typiquement
un petit peu plus ancien,
vénitien. Oui. Et puis d'autres. Mais, voilà, c'est-à-dire que Venise, qui peu à peu décline économiquement, devient une des grandes capitales, un des grands lieux de création picturale, architecturale aussi. Il faut parler de Palladio, il faut parler de tant d'architectes. Et l'intérêt de Venise, c'est que c'est l'influence aussi du monde byzantin avec la Renaissance. Donc il y a d'abord l'influence byzantine qui va se prolonger très très longtemps, puis après la découverte relativement tardive de la Renaissance à Venise par rapport à Florence, et une peinture d'une sensualité, d'une pure lumière. La peinture vénitienne, c'est de la lumière, comme quand vous êtes dans la lagune de Venise, où tous les contours se fondent, on ne sait pas où est l'horizon, etc. Tout est horizontal, tout est de la pure lumière. La peinture vénitienne, c'est le triomphe de la lumière.
On comprend pourquoi les impressionnistes, et notamment Monet, y sont venus. Alors plus tard, à la Belle Époque, il y a eu là une efflorescence artistique non moins extraordinaire à la Belle Époque. Avec la venue entre Henri de Régnier et Proust, on a vu tous nos grands écrivains français notamment s'installer là. Il faut lire les Venises au pluriel de Paul Morand. Hein.
Voilà, et puis Henri de Régnier, vous l'avez cité, et tant d'autres. C'est une époque curieuse, le 19e siècle à Venise. Venise a cessé d'être une cité indépendante après Napoléon. Elle est occupée par les Autrichiens. Les Autrichiens négligent Venise au profit de Trieste, qui est le port économique. Et la pauvreté économique de Venise l'a sauvée, parce qu'il n'y a pas eu d'industrialisation. Souvent, c'est la pauvreté qui protège et c'est la richesse qui détruit. Et les romantiques, et plus tard les écrivains de la fin du 19e, vont aimer cette Venise un peu déclinante, décadente, oubliée. Il y aura le célèbre Mort à Venise de Thomas Mann qui l'illustre,
et c'est vraiment porté à l'écran par Visconti.
Mais en même temps, c'est une Venise qui est en contradiction totale avec la Venise de l'art de vivre, de la sensualité, de l'effervescence du monde des lumières, qui est celle du 18e siècle et des siècles précédents.
Les deux existe. Et quand on se promène dans Venise, en fonction du temps, du jour et de la saison, on peut connaître les deux, c'est-à-dire fête extraordinaire et puis en même temps parfois une intense mélancolie. Voilà. On dit que Venise décuple les émotions dans les deux sens, du reste.
Vous avez raison. Et puis surtout, il y a ce sentiment d'une immense durée dans Venise. Quand vous promenez sur le Grand
L'épaisseur
Canal...
L'épaisseur du temps.
Écoutez, vous regardez tous les palais du Grand Canal. On dirait une harmonie merveilleuse de ces palais. Souvent, il y a 1000 ans entre certains, entre l'époque byzantine, certaines églises qui datent du 8e, 9e siècle, et les palais néoclassiques du 18e, presque 10 siècles. Et ces 10 siècles qui vivent dans la longue durée et qui s'entendent bien entre eux, qui sont polis les uns avec les autres sur le plan architectural, si j'ose dire.
Pour boucler la boucle, la marée, l'inondation qui aujourd'hui menace Venise est plutôt une marée humaine, il faut bien le dire. Il y a un tourisme qui devient très important là.
C'est le drame de Venise, c'est que Venise, vous l'évoquiez tout à l'heure en début de cette émission, c'est que la vie économique de Venise, la vie importante, tend à diminuer. On parlait de la verrerie, maintenant les trois quarts des...
On va en parler dans un instant, oui.
Voilà, les trois quarts de ce qui est vendu à Venise, ça vient d'Extrême-Orient.
De Taïwan.
Exactement. Les dentelles de Burano, elles sont faites en Chine ou en Indonésie, je ne sais pas où. Donc il y a un vrai problème de dépossession de Venise par les Vénitiens.
Et puis ces immenses paquebots qu'on essaie de tenir un peu à l'écart.
C'est un cauchemar.
Et puis des flux de touristes. Alors ce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs, c'est qu'on a encore la possibilité de visiter Venise de façon idéale et de découvrir des merveilles. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'espèce de boulevard touristique du centre qui va de San Marco au Rialto et aller se promener tout à la périphérie où Venise conserve son authenticité quand même.
Vous avez raison.
Merci infiniment Frédéric Vitou. Alors je rappelle évidemment votre dernier ouvrage Les Désengagés chez Fayard. On aurait pu parler de Charles et Camille d'ailleurs aussi qui nous aurait ramené.
Un grand roman vénitien sur la fin de la République de
exactement.
Venise.
Exactement. Et puis L'Art de vivre à Venise, je crois qu'on ne le trouve plus mais on peut encore le trouver sur internet bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre amour de Venise.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Michael via le site europe1.fr. Écoutez bien, Franck, quelle est l'origine du verre et des verriers à Murano?
Alors l'origine du verre, ça nous entraînerait très loin, au cœur de la préhistoire. Je préfère me cantonner à Murano. Il faut savoir qu'au départ, l'industrie du verre, enfin si tant est que je puisse parler d'industrie, c'était encore un artisanat à l'époque. Avant le XIIIe siècle, c'était une industrie vénitienne, bien entendu. Et puis, en 1291, un décret décide d'exclure les maîtres verriers de la ville par peur des incendies, à une époque où il y a énormément de maisons. Alors, ce décret, il sera confirmé au milieu du XVIIIe siècle, puis au tournant du XIXe par Bonaparte au moment de l'occupation française. Bref, on envoie les verriers et leurs fours, surtout, sur l'île de Murano. S'il fallait citer un grand maître de Murano, ce serait Angelo Barobir, bien entendu, au milieu du XVe siècle. C'est lui qui invente ce qu'on va appeler le cristal vénitien. Les verriers de Murano vont mettre au point un verre blanc opaque, qu'on confond d'ailleurs plus ou moins avec la porcelaine de Chine à l'époque. C'est extraordinairement prisé. Toutes les grandes cours d'Europe vont en vouloir, au point même que, après, évidemment, tout de même, après le commerce maritime, le commerce du verre va devenir la principale ressource de Venise. Une Venise, vous l'aurez compris, qui était néanmoins à l'époque déjà sur le déclin.